Chapitre 3. La tour de Vertigier. À cette époque régnait sur la Bretagne un roi nommé Constant. Il avait trois fils, l'aîné s'appelait Moine, le second Pendragon et le troisième Uther. Son sénéchal, du nom de Vertigier, était un homme intelligent et habile, et un des meilleurs chevaliers de cette époque. Lorsque Constant mourut, après un long règne, les seigneurs du royaume se réunirent pour décider qui il ferait seigneur et roi. La majorité fut d'accord pour donner le trône à Moine, l'aîné des trois fils, malgré son jeune âge. Quant à Vertigier, il fut reconduit dans sa fonction de sénéchal. En fait, c'était lui, et non le roi, qui gouvernait le royaume. Il avait un grand prestige à cause de sa vaillance, et il s'attirait la sympathie des gens en usant du trésor royal. Une guerre éclata. Les Saxons avaient toujours été les ennemis de Constant. Voulant mettre à profit la jeunesse de Moine, ils vinrent attaquer le pays. Le roi, encore un enfant, n'avait pas la bravoure et la sagesse nécessaires pour faire face, et Vertigier s'en apercevait bien. Tous pensaient que le sénéchal était le seul capable d'une action efficace. Ce dernier en conçut un grand orgueil et décida qu'il ne mènerait pas la guerre pour le compte du roi. Quand les Saxons apprirent qu'ils se retiraient, leur audace ne fit que croître et ils multiplièrent les attaques. Moine fit appel à Vertigier. « Cher ami, lui dit-il, aidez-moi à défendre ce royaume. Le sort de mes sujets et le mien dépendent de vous. Mettez-vous à notre tête. » « Seigneur, que d'autres s'en chargent à l'avenir. Pour moi, je ne puis le faire, car certains dans ce pays me haïssent à cause des services que je vous ai rendus. Qu'ils livrent donc cette bataille, car je ne m'en mêlerai pas. » Le roi Moine et son entourage, voyant qu'ils ne parviendraient pas à le convaincre, se préparèrent donc à combattre les Saxons. Mais les hommes du roi furent mis en déroute, et ils durent avouer à leur retour que si Vertigier avait été présent, il n'aurait pas subi d'aussi lourdes pertes. On en resta là. Le jeune roi, inexpérimenté, ne savait pas s'attacher les gens comme il aurait fallu, et beaucoup se mirent à le détester. Avec le temps, ils le jugèrent lâche et indécis, et refusèrent de le supporter plus longtemps. Plusieurs barons, parmi les plus importants, allèrent trouver Vertigier. « Seigneur, nous voilà sans roi ni maître, car celui-ci ne vaut rien. Pardieu, soyez notre roi, gouvernez-nous, protégez-nous, car personne dans ce pays ne peut le faire mieux que vous. Je ne le puis ni ne le dois tant que notre roi est en vie. Il vaudrait mieux qu'il soit mort. S'il était mort et que tout le monde me souhaitait pour roi, j'accepterais volontiers. Mais tant que Moine sera en vie, c'est impossible. » La réponse de Vertigier pouvait être interprétée de diverses façons. Les barons qui l'entendirent, de retour dans leur terre, réunirent leurs amis pour examiner la situation. Ils rapportèrent leur conversation avec le sénéchal. « Le mieux à faire est de supprimer Moine, » conclurent-ils. « Vertigier sera roi, et il saura bien que c'est grâce à nous. Ainsi, par la suite, nous aurons tout pouvoir sur lui. » Ils en désignèrent 12 parmi eux, qui seraient chargés du meurtre. Les autres se tiendraient en secret dans la ville pour prêter main forte en cas de besoin. Les 12 se rendirent à la résidence royale. Ils se jetèrent sur Moine et le tuèrent à coups de couteau et d'épée. Tout se passa très vite. Moine était jeune et dans l'indifférence générale. Les barons se rendirent auprès de Vertigier. « Vertigier, lui dirent-ils, tu peux maintenant être roi. Nous avons tué Moine. » À cette nouvelle, le sénéchal feignit d'entrer dans une vive colère. « Vous avez mal agi en assassinant votre roi. Je vous conseille de fuir au plus vite, car les seigneurs de ce royaume vous tueront, et moi, je ne vous protégerai pas. Je suis très mécontent de vous voir ici. » Ils se retirèrent donc. Le roi Moine était mort. Les seigneurs du royaume se réunirent pour délibérer sur le choix d'un nouveau souverain. Vertigier s'était attiré la confiance et l'estime de presque tous. Le trône lui fut donc accordé à l'unanimité. À cette délibération assistaient deux hommes de bien qui avaient la garde des enfants survivants, Pendragon et Uther, fils de Constant et frères de Moine. Lorsqu'ils apprirent que Vertigier serait roi, ils furent convaincus que c'était lui qui avait fait assassiner le roi moine. « Nous pouvons tout craindre de lui, se dirent-ils. Dès qu'il sera au pouvoir, il fera tuer les enfants qui sont sous notre garde. Il aura trop peur qu'ils ne revendiquent un jour leur royaume. Nous devons les protéger. » Les deux hommes décidèrent donc de fuir la Bretagne et d'emmener les enfants avec eux sur le continent, et de là très loin vers l'Orient, en terre étrangère. Une fois grands, ils pourraient, s'ils en avaient le courage, reprendre leur royaume à l'usurpateur. Vertigier fut donc élu roi et reconnu pour tel dans toute la Bretagne. Après le sacre, quand il fut maître du pays, les assassins de moines revinrent le trouver. Face à eux, il fit comme s'il ne les avait jamais vus. Les barons l'accablèrent alors de reproches. Il leur devait son trône, puisqu'ils avaient supprimé pour lui le roi moine. Entendant de leur bouche l'aveu du crime, Vertigier les fit aussitôt arrêter. « Vous avez vous-même prononcé votre condamnation en avouant avoir tué votre seigneur. Vous n'aviez pas le droit de le supprimer, moine, et vous agiriez de même avec moi si vous le pouviez. » Ces menaces les épouvantèrent. « Seigneur, firent-ils, nous avons cru agir dans votre intérêt et mériter ainsi votre amitié. Je vais vous montrer comment on doit aimer les gens de votre espèce. » Les 12 barons ayant été saisis, il les fit attacher à 12 chevaux et écarteler jusqu'à ce qu'ils soient mis en pièces. Après leur supplice, leurs nobles familles vinrent trouver Vertigier. « Tu nous as couverts de honte en faisant périr nos parents et nos amis d'une mort infamante. Nous ne te servirons plus jamais de bon cœur. » Irrité par ces paroles, Vertigier répliqua. « Si vous ajoutez d'un seul mot, je vous ferai subir le même sort. Tu peux nous menacer autant que tu voudras. Tu n'es pas notre maître, ni le seigneur légitime de ce royaume. Voici notre défi. Tant que nous aurons un homme capable de porter les armes, nous ne cesserons de combattre contre toi. » Ainsi commencèrent les hostilités entre eux. Les barons réunirent des troupes et tentèrent d'envahir le pays. Vertigier ne put que difficilement les repousser. Vertigier gouverna longtemps le royaume, mais il se montra un tel tyran que son peuple se rebella contre lui. Craignant d'être chassé de son trône, il envoya des messagers auprès des Saxons pour faire la paix avec eux. Ses offres furent bien accueillies, et un chef saxon du nom de Hengist lui proposa son aide contre ses sujets rebelles. Ayant triomphé, il fit épouser sa fille au roi. Mais cette union ne fit qu'augmenter la haine de ses sujets. Vertigier savait aussi que les fils de Constance étaient réfugiés en terre étrangère et reviendraient aussitôt qu'ils le pourraient. Il décida donc de construire une tour si solide et si élevée qu'elle serait imprenable. Il ordonna d'apporter les matériaux, de bâtir des fours à chaud et d'entreprendre aussi vite que possible la construction de la tour. Mais après 3 semaines de travaux, de nuit comme de jour, tout s'écroula. On recommença et par 3 fois, la tour s'écroula, aussitôt qu'elle avait atteint 3 ou 4 toises. Outré de cet échec, Vertigier déclara qu'il ne serait pas satisfait avant d'en avoir connu la cause. Il réunit donc ses barons les plus sages et leur fit part du phénomène. En dépit de tous ses efforts, la tour, avant même d'être entièrement construite, s'effondrait mystérieusement. Il leur demandait conseil. Les barons furent frappés de stupeur devant ce fait peu banal. Après avoir examiné les décombres, ils dirent à Vertigier. « Seigneur, seuls des clercs pourraient expliquer ce phénomène. Par leurs longues études, ils ont des connaissances supérieures à celles des autres hommes. Vous devriez les consulter. » « Je pense que vous avez raison. » Vertigier fit donc convoquer les clercs de son royaume, et quand ils furent réunis, il leur expliqua ce qui se passait. « Pourriez-vous me dire, conclut-il, pourquoi ma tour s'écroule ? Malgré tous les efforts, il est impossible de la faire tenir debout. « Seigneur, nous n'en savons rien. Mais peut-être des clercs versés dans une science appelée astrologie pourraient vous répondre. Si nous parvenons à trouver des experts en la matière, nous les prierons de vous conseiller. S'ils peuvent m'éclairer, je n'aurai rien à leur refuser. » Les clercs se réunirent en petit comité pour se consulter. Deux parmi eux connaissaient des experts en astrologie. Ils reçurent donc la mission de réunir des clercs astrologues. Ils firent tant et si bien qu'ils en trouvèrent sept. Chacun des sept pensait être plus savant que les autres. On les conduisit devant le roi, qui leur demanda s'ils pourraient lui dire pourquoi sa tour s'écroulait. « Oui, répondirent-ils, si c'est le fait d'un être humain. Eh bien, sachez que si vous y parvenez, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. » Le roi renvoya l'assemblée des clercs et seuls restèrent les sept clercs astrologues. Ils étaient très expérimentés dans leur art et consultèrent longuement les astres. Et pourtant, plus ils réfléchissaient, moins ils trouvaient la solution. En fait, une réponse s'imposait à eux, mais elle semblait sans rapport avec la tour. Le roi, impatient, les convoqua et les pressa de parler. « Qu'en est-il de ma tour ? Ne me cachez rien. » « Seigneur, vous nous posez une question extrêmement difficile. Il faut nous accorder un délai de 9 jours. »«
Soit, mais prenez garde à m'apporter la réponse d'ici 9 jours. Il y va de votre vie. »
9 jours d'études n'apportèrent aucune solution. Arrivés au terme du délai, les clercs se réunirent pour délibérer et s'interrogèrent entre eux. Quelle réponse donner au roi ? Mais aucun ne voulait dire aux autres ce qu'il en savait lui-même. Le plus sage d'entre eux finit par prendre la parole. « Prenez garde, nous sommes perdus si nous en restons là. Voici ce que nous allons faire. Chacun va venir à tour de rôle me dire à l'oreille ce qu'il a découvert. Moi, je ne dévoilerai ce qui m'a été dit qu'avec votre permission à tous. » Tous furent d'accord, et ils vinrent, l'un après l'autre, lui révéler le fruit de leurs réflexions. De la tour, il ne savait rien, mais il voyait une chose extraordinaire. Un enfant de 7 ans, conçu par une femme, et qui n'avait pas de père humain. Tous lui avouèrent la même chose. Quand il eut reçu leur confidence, le plus sage dit aux autres : « Revenez devant moi, Seigneur, vous m'avez tous dit la même chose et caché la même chose. Est-ce possible ? Qu'avons-nous dit et qu'avons-nous caché ? Vous avez tous avoué ne rien savoir au sujet de la tour et vous avez tous vu un enfant conçu par une femme et qui n'avait pas pour père un être humain. Mais moi, je vais vous dire de quoi vous n'avez pas soufflé mot. Vous avez vu que vous deviez mourir à cause de cet enfant. Moi aussi, je l'ai vu tout comme vous. Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir, puisque notre vie est en jeu. N'ai-je pas dit la vérité ? N'ai-je pas raison ? Oui, vous avez dit vrai. Par Dieu, nous vous en supplions, aidez-nous à préserver nos vies. Bien fou celui qui n'y songerait pas. Savez-vous ce que nous allons faire ? Nous nous mettrons d'accord pour donner la même réponse. Cette tour ne peut et ne pourra jamais rester debout si l'on ne mêle pas au mortier de ses fondations le sang de cet enfant né sans père. Si l'on y parvient, la tour tiendra et restera toujours intacte. Nous ferons tous la confidence au roi séparément et sans lui dire que nous nous sommes concertés. Ainsi, il nous croira et nous échapperons à la mort. Quant à cet enfant qui doit causer notre perte, empêchons le roi de le voir et de l'entendre. Ceux qui iront le chercher devront le tuer dès qu'ils l'auront trouvé et rapporter son sang au roi. Ils s'accordèrent tous sur ce plan et allèrent trouver le roi. Seigneur, nous ne vous donnerons pas notre réponse tous ensemble. Chacun viendra vous parler séparément et vous pourrez ainsi juger par vous-même qui montre le plus de sagesse. Chacun d'entre eux fit donc semblant d'ignorer tout de la réponse des autres et vint se présenter devant le roi, assisté de 5 conseillers. Stupéfaits devant leur révélation, ces derniers finirent par admettre que cela était possible, si toutefois un enfant sans père pouvait exister. Le roi, convaincu de leur sagesse,
les fit revenir ensemble devant lui. « Vous m'avez tous donné séparément la même réponse, » leur dit-il.
« Et quelle réponse ?»
Et le roi leur répéta leurs propos. Il avoua cependant sa perplexité. « Comment est-ce possible ? Comment un enfant peut-il naître sans père ?»«
Seigneur, c'est un cas unique, mais nous pouvons vous l'affirmer, cet enfant est bien né ainsi, et il est âgé de 7 ans. »
Le roi leur assura qu'il enverrait chercher l'enfant. Quant à eux, il les ferait garder sous sa protection en attendant.
« Bien volontiers, Seigneur, nous acceptons ces conditions, mais surtout, évitez de voir l'enfant et de lui parler. Ordonnez seulement qu'on le tue et qu'on vous apporte son sang. C'est ainsi que votre tour tiendra, si elle a quelque chance de tenir. »
Le roi les fit placer dans sa forteresse en leur donnant à boire et à manger et en subvenant à leurs besoins. Puis il envoya 12 messagers dans tout le royaume, 2 par 2. Il leur fit jurer sur les reliques que ceux qui trouveraient l'enfant le tueraient et rapporteraient son sang. Qu'ils ne reviennent pas avant.